faire un film pour capturer l'amour. Pas un truc à l'eau de rose. Ce serait l'histoire d'une fille qui rêve.
Je vais tourner avec vous. L'humide clé des songes. Oh belle, promettez-vous. Avant que le malheur nous ronge. Un rendez-vous. Avant que le malheur.
On devrait en faire notre générique. Et oui, un rendez-vous ce soir. Dans le rendez-vous sur France Culture, il sera question du Sancy, de la Bourboule, de Babel, de 3D, de Mise en Abîme et même de GHB. Avec Jean-Louis Murat qui signe Babel, double album enregistré avec The Delano Orchestra pour une cartographie musicale de l'Auvergne, Benoît Lagan.
Magnifique double album CD et triple vinyle entre balade folk cuivrée, rythmique pop et même soul, soit 20 chansons enregistrées entre la Bourboule et Babel.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile. Ce soir, il sera question de quoi, Xavier ?
De la Révolution française.
C'est sûr ?
Oui, oui, c'est sûr.
Très bien. 19h35, plateau live avec les... Chaque fois, je l'interroge parce que je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'il raconte. 19h35, plateau live avec Laetitia Masson qui réalise GHB, entre parenthèses, être ou ne pas être, un film pour quatre femmes en quête d'amour dont l'une a inventé les trois autres. C'est la définition même du cinéma, Lucille Como.
Retour sur le parcours d'une cinéaste qui recombine dans son dernier film les trois grands éléments de son cinéma, origine, amour, travail.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez que l'on ouvre avec le son du jour.
Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Aren't you?
I'll get undressed now, is that all right?
Sure. Shall I? I mean, shall I just stand here? I mean, I don't know what you want me to do.
Why don't you watch?
Oh, sure, thank you.
What happened between Mrs. Robinson and me was nothing. It didn't mean anything.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et comme d'habitude, il ne date pas d'hier.
Non, il date de 1967. Alors vous avez certainement reconnu la musique de Simon & Garfunkel et la voix de Dustin Hoffman tout jeune. C'est la bande-annonce du lauréat The Graduate. Le réalisateur du film s'est éteint cette nuit à l'âge de 83 ans. Il a réalisé plusieurs grands succès au cinéma avec le lauréat, mais on l'a souvent oublié. Avec Qui a peur de Virginia Woolf, avec Elizabeth Taylor, Working Girl ou alors plus récemment La guerre selon Charlie Winston. Mais aussi au théâtre où il a signé plusieurs mises en scène, Annie, plusieurs fois La mort du commis voyageur. Il faisait partie du groupe très restreint de 12 personnes qui sont les seules à avoir remporté à la fois un Oscar, un Emmy, un Grammy et un Tony Awards.
Et tout de suite, on passe au dossier du jour et l'on part en Thaïlande où le troisième épisode de la saga Hunger Games, grand blockbuster américain,
c'est terrible,
est récupéré par les étudiants de Bangkok pour critiquer la loi martiale en vigueur dans le pays.
Oui, alors les étudiants de la faculté de Thammasat à Bangkok ont distribué par centaines des tickets pour encourager les étudiants à aller voir ce film. Au moins deux étudiants, dont une jeune femme, ont été arrêtés pour avoir repris le signe des trois doigts, qui est un signe issu du film. Alors pour comprendre ce qui se passe là-bas, petit rappel sur la situation politique en Thaïlande. Depuis des mois, il y a les chemises jaunes partisanes, grosso modo, du roi et de l'élite thaïlandaise qui réclamaient le départ de la première ministre, Yingluck Shinawatra, qui elle était soutenue, disons, plus basiquement par une base plus populaire. Après des mois de contestations, de blocus dans la capitale, l'armée a organisé un coup d'État en mai dernier pour restaurer l'ordre public. Et depuis, le pays vit sous la loi martiale, comme l'explique David Kamrou, enseignant à Sciences Po, chercheur aux séries et spécialiste de la Thaïlande.
Dans ce contexte, avec la loi martiale, on a interdit les manifestations de plus de 5 personnes. Donc, les formes de protestation sont très individualisées. Donc, on utilise le signe, justement, avec les trois doigts de Hunger Games pour exprimer sa révolte. Et également, on trouve dans les centres commerciaux les jeunes qui lient le livre de George Orwell, 1984, ensemble. Et ce livre est maintenant interdit en Thaïlande. Effectivement, les étudiants jouent ce rôle important, surtout les étudiants de l'université de Thammasat, qui est une des deux grandes universités à Bangkok. Donc, c'est des formes de protestation extrêmement soft dans un le contexte de la loi martiale.
Justement, dans ce contexte, est-ce que le message de Hunger Games est particulièrement pertinent?
Alors, à vous de voir, il met en scène dans un avenir dystopique un pays qui vit sous le joug d'un pouvoir despotique. Pour faire régner la terreur, l'État organise chaque année une télé-réalité où des adolescents doivent s'entretuer jusqu'à l'apparition d'une figure féminine héroïque qui va organiser la rébellion, interprétée par Jennifer Lawrence. Romain Blondeau est critique aux Un Rock. Il a vu le film. Selon lui, pas véritablement de message politique réel dans ce film qui propose finalement une mise à distance de la figure traditionnelle de la rebelle, mais dans lequel les étudiants thaïlandais peuvent largement se servir en termes d'outils. Écoutez-le.
L'avantage de ce genre de blockbuster young adult, c'est aussi qu'il crée ses propres signes d'identification et de rassemblement, disons quoi. C'est vraiment des objets à la fois littéraires et cinématographiques qui sont faits pour créer une forme de communauté, disons quoi. Dans ce film-là, donc, il y a toute l'édification de tout un système, un discours rebelle qui passe notamment par des propaclips, des clips de propagande donc, qui sont tournés par l'actrice principale Jennifer Lawrence et son personnage Katniss Everdeen. Et puis il y a aussi ce symbole-là qui est le symbole le plus fort de la révolution, qui est le jet moqueur, qui est une sorte d'oiseau qui représente un petit peu la rébellion. Et alors, il y a aussi des chants, des mouvements du bras, il y a tout un tas de signaux dans le film qui peuvent être effectivement récupérés par des mouvements comme ça, quoi.
Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'un film populaire est récupéré par un mouvement social.
Oui, il a déjà largement été repris, c'est l'un de ses films, depuis notamment la crise économique. Écoutez, Julien Gester, il est journaliste à Libération.
Le plus évident, le plus connu, c'est sans doute V pour Vendetta, qui est d'abord un comic dont l'auteur est Alan Moore, qui a donné lieu à un film produit par les frères Wachowski pour le compte d'une major hollywoodienne qui est la Warner, et qui est, comme on le sait, devenu un emblème, en tout cas à travers le masque que l'on y voit, à la fois du mouvement Anonymous sur Internet et des indignés. Et on a même vu Julian Assange à Londres porter ce masque lors d'une manifestation. Le masque, tel qu'il est réapproprié aujourd'hui, c'est une forme de détournement, disons, de l'usage qui en est fait dans le film, même si au fond, c'est l'idée d'une révolution sans visage, d'une masse qui avancerait collectivement et masquée.
Voilà, alors pour en revenir à la Thaïlande, les étudiants qui ont été arrêtés vont être relâchés, mais selon leurs avocats. Mais maintenant, une vingtaine de policiers surveillera chaque séance du film Hunger Games en Thaïlande.
Eh bien, on passe aux brèves. D'ailleurs, peut-être on devrait donner le nom du réalisateur.
Alors, c'est
décédé.
Ce qu'on va faire. J'allais dire, on va ouvrir avec ce par quoi on a ouvert tout à l'heure. J'ai parlé de ce réalisateur du lauréat, mais je n'ai pas dit son nom. Pauvre homme, il s'appelait Mike Nichols et nous lui rendons hommage.
Alors, on ouvre avec les derniers prix littéraires de la saison.
Oui, c'est le prix Interallié. Il a été décerné à Mathias Ménégos pour son roman Carpathia aux éditions POL, grande fresque historique sur les Balkans du 19e siècle. L'auteur de 46 ans, scientifique de formation, dont c'est le premier le roman, a été choisi au 5e tour de scrutin par 6 voix contre 4 à Simonetta Greggio pour Les Nouveaux Monstres. Autre finaliste qui repartira bredouille de ce marathon littéraire, c'était l'un des favoris pourtant, Eric Reinhardt avec L'Amour et les Forêts chez Gallimard.
Michel Bouquet et Florian Zeller récompensés par le prix du Brigadier.
C'est l'un des plus anciens prix de théâtre. Michel Bouquet, 89 ans, qui joue quasiment sans relâche depuis plus de 10 ans, le roi semeur de Ionesco, reçoit un Brigadier d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Quant à Florian Zeller, le jury l'a exceptionnellement exclu de son vote, puisqu'en fait il fait partie de ce prix en général, pour lui attribuer le prix du Brigadier pour sa pièce Le Père, succès de la saison dernière au théâtre Héberto.
Au moment où commence La Mer avec Catherine Yégel. Le chanteur Calogero a fait appel de sa condamnation pour plagiat.
Oui, le chanteur avait été attaqué par un compositeur, Laurent Ferriol, qui l'accusait d'avoir copié l'une de ses chansons déposées à la SACEM dans sa chanson à lui de Calogero, Si seulement je pouvais lui manquer. Et la justice avait conclu qu'il avait raison, car, je cite, les refrains des deux œuvres présentaient d'importantes similitudes de l'ordre de 63% des notes communes. Calogero annonce qu'il va faire appel pour l'honneur.
Et la dernière?
Alors la dernière, c'est une histoire d'ours, d'enfant. Pourquoi d'ours? Pourquoi pas d'ours? Mais c'est super mignon, les ours. De subversivité et de censure, voilà. Alors, c'est l'affaire qui secoue la Grande-Bretagne. Vous connaissez peut-être l'ours Paddington, un charmant petit bipède qui a été créé il y a des dizaines d'années par un vénérable auteur, Michael Bond, qui a aujourd'hui 87 ans, brave homme. Les inventeurs de cet ours mignon ont été enfin adaptés au cinéma.
C'est Guillaume Gallienne qui donne sa voix.
Qui double, exactement. Et de là-bas, en Grande-Bretagne, c'est un certain Mr. Brown, donc des gens assez populaires, dans une comédie qui va sortir pour Noël, qui devait faire le plaisir de tous les enfants. Et là, badaboum, dirais-je. Scandale, on apprend que les enfants de moins de 8 ans ne pourront pas voir le film, car le bureau britannique de classification des films a décidé de mettre un contrôle parental pour ce film. Et oui, alors le créateur de l'ours Paddington, le metteur en scène, les acteurs ne décolèrent pas et dénoncent de la véritable pudibonderie de la part de la commission, parce que ce contrôle parental, il a été mis en place car il y aurait, selon la commission, de légères références sexuelles dans le film. Et oui, car il y a une scène où le père de famille qui accueille l'ourson chez lui est déguisé en femme. Pourquoi ? Je ne sais pas vraiment. Mais à ce moment-là, si, il y a un livreur qui le drague. Voilà, le fait d'évoquer de la drague, c'est une référence sexuelle.
Je n'ai rien compris. Le livreur drague qui ?
Voilà, il y a une scène où il y a un homme déguisé en femme
qui se fait draguer par un livreur.
Voilà, donc ça, c'est une référence
sexuelle. Et un
ours
arrive là-dessus.
Par ailleurs, il y aurait des actions.
Moi, j'ai envie de voir, en tout cas.
Tout de suite, c'est complètement subversif.
Mais autre, c'est François scène... Ozon qui l'a fait. C'est le nouveau film de François Ozon.
C'est même un film d'horreur, puisque là, c'est l'autre récrimination de la commission qui considère qu'il y a des appels à faire des choses très dangereuses, puisqu'on y voit Paddington qui, à un moment donné, dans une séance de cache-cache, se cache dans le frigo, le fameux truc dont tous les parents ont peur que les enfants le fassent pour de vrai. Et on le voit aussi, à un moment donné, faire du skateboard en s'accrochant à un autobus, extrêmement dangereux, nous dit la commission.
Frémier de bouffer du miel dans sa, alors, dans sa forêt.
L'acteur,
et tout serait bien passé.
Ben voilà, alors l'acteur a dit, l'acteur qui joue Mr. Brown dans le film a dit, moi j'ai vu le film avec mes enfants de 5 ans, le seul danger c'est qu'ils fassent pipi de rire dans leur culotte. Ça n'a pas néanmoins découragé la commission qui maintient sa classification.
Qu'est-ce que pensent de tout cela nos invités? Je crois que Jean Lemurray, il n'y aura pas de réaction. J'ai pas l'impression, non, c'est pas la peine. Même Calogero pour plagiat, le plagiat en musique, 63% de notes, c'est ça, 63% de notes communes.
Oui, ça, enfin, je ne sais pas, c'est un peu sidérant. Ouais.
Ça vous est jamais arrivé ?
C'est possible. Non, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais à force de chercher des mélodies qui plaisent à tout le monde, on peut se retrouver à marcher sur des mélodies qui ont plu à tout le monde, peut-être.
Laetitia Masson, est-ce que vous emmènerez vos enfants ? J'ai l'impression que les enfants de Laetitia Masson ont passé un bon moment.
J'ai très envie de le voir depuis cette chronique. Ouais.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
D'abord, avant de commencer, tous les deux, comment vous vous êtes connus ? Parce que vous avez collaboré ensemble, Laetitia, vous avez fait un film sur un enregistrement d'un album, d'un concert plutôt, de Jean Lemurray. Jean Lemurray, il y avait une chanson de vous dans un film de Laetitia Masson. Comment vous vous êtes rencontrés, Laetitia ?
Non, je lui ai couru après.
C'est par notre amie Christine
Angot. Je devais faire l'adaptation d'un texte qu'elle avait écrit pour le journal Elle, dans lequel elle évoquait Jean-Louis et une de ses chansons. Et je me suis dit, quitte à filmer des beaux, autant faire venir le chanteur et filmer le chanteur. Et du coup, je l'ai appelé, mais surtout je l'ai vu en concert avant. C'est le concert qui correspondait à l'album Mustango. Et là, j'ai pris une claque, comme on dit vulgairement. Voilà, donc je me suis dit incontournable. Et il n'y a pas qu'une chanson de lui dans mes films, il y en a plein.
Vous n'avez jamais cherché à le faire véritablement tourner ? Vous aviez déjà fait tourner Benjamin Biolay, Johnny Hallyday ?
Non, mais pour moi, il est trop précieux pour ça. Et il n'est pas acteur, il est créateur. Enfin, donc je préfère aller manger avec lui que le soumettre
pas
à
acteur,
ma caméra.
Pas acteur, c'est quelque chose qui vous convient, Jean Lemurray ? Alors même que vous avez tourné avec Doyon, je me souviens.
Oui. Non, on n'aborde jamais ce sujet-là, parce que de toute façon, non. J'aime pas...
Non, ça ne me viendrait pas à l'idée.
C'est tellement loin de moi, c'est non.
Plateau du Chamas Blanc avec vous, Jean-Louis Murat, auteur, compositeur, interprète. Vous signez votre 13e album, Babel, sous le label Piass, un double
23e.
Album. 23e.
Mais enfin,
13e. 13e, c'est le mauvais chiffre en plus.
13e, c'est bon pour Calogero. 23, moi.
À ce rythme-là, d'ailleurs, 23, il n'y arrivera peut-être même pas. Ouais. En effet, ça fait presque un par an. Ouais. Moins que ça, quand même. Sous le label Piass, un double album mélancolique entre folk, soul et pop, où il est question bien évidemment de l'Auvergne et de ceux qui y habitent encore, des voyages et même du camping à la ferme. L'album est né d'une rencontre avec le groupe clermontois The Delano Orchestra, que vous avez rencontré à la radio, c'était à l'occasion des 50 ans de France Inter, lors d'un direct matin à Clermont-Ferrand. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre pour que tout de suite après vous vous lanciez dans un projet avec eux, alors même que vous les connaissiez déjà ?
Non, parce que ça s'est bien passé, notamment musicalement et humainement aussi. Et puis, comme on est toujours à essayer de faire des économies pour enregistrer des albums, je me suis dit, je vais prendre un studio d'enregistrement à Clermont-Ferrand. les gars mangent et dorment chez eux. Donc on a fait un disque pas cher, c'était une commodité. C'était pour des raisons économiques aussi.
Alors pourquoi avoir attendu tant de temps? Parce qu'ils habitaient très près de chez vous depuis pas mal de temps. Vous aviez même travaillé déjà lors du premier enregistrement de votre album.
Je suis plutôt de la Bourboule et pour moi, Clermont-Ferrand, c'est Saint-Pétersbourg. Enfin, c'est très très loin. Voilà. Donc, j'ai loué un appartement à Clermont-Ferrand, ce qui pour moi était déjà un exploit.
D'ailleurs, l'album devait s'appeler La Bourboule au départ, que vous avez choisi pour Babel.
Je devais l'enregistrer à Saint-Flour, mais je n'ai pas trouvé de groupe à Saint-Flour. Mais Saint-Flour, ça aurait été bien aussi. Je croyais de bons musiciens.
C'est très beau.
Ouais, une bonne production à Saint-Flour.
Donc, il y a des orgues.
Oui, il y a des orgues, bien sûr. Dur à jouer, mais c'est joli.
Mais il y en a quand même, dans le paysage.
Donc La Bourboule, oui, j'avais pensé appeler mon album La Bourboule. Non.
Non ?
Non.
On ne devrait jamais lire les entretiens que vous accordez avant de vous inviter, Jean Lemure.
J'ai toujours 5 ou 6 versions différentes pour changer.
Ça, voilà. Donc ce soir,
ça m'amuse.
Donc ce soir, c'est non.
Ça. Vous étiez à 13 albums avec un album qui aurait pu s'appeler La Bourboule. Non, très bien.
Alors on va continuer sur n'importe quoi.
Oui, mais non, mais parce que La Bourboule, plutôt, et vous avez préféré Babel. Alors je cite le même entretien, on va voir si c'est vrai.
Ah, tu parles.
Parce que je vous cite, Babel est une ville totalement toxique.
J'ai dit ça, moi.
Oui. Dans un entretien pour Magique.
Quel con. Non, j'y pensais pas, non. Non, je sais pas. Non, c'est La Bourboule qui est toxique. Mais non, il y a de l'arsenic à La Bourboule.
D'accord.
Et ça sort et tous les bourbouliens sont intoxiqués. C'est vrai que c'est une ville toxique. C'est la ville où il y a plus de suicidés en Auvergne, de déprimés en Auvergne, de cul de jatte en Auvergne, de borgne en Auvergne. C'est La Bourboule.
Et c'est pas là où on faisait des cures à La Bourboule?
Si, justement.
Pour soigner les cul de jatte.
Les bornes.
Ah, mais donc c'est pas La Bourboule qui les rend malades.
Et les sourds aussi.
Donc c'est pas La Bourboule qui les rend malades.
Ah bah si, parce que l'arsenic, suivant la dose, ça peut vous guérir ou ça peut vous rendre malade.
C'est une vie parfaite, c'est-à-dire qu'on vient se soigner de ce dont on est malade.
Le poison, le médicament, bien sûr, voilà, c'est ça.
Si vous essayez de trouver une cohérence à tout ce qui va être dit dans cette émission, vous n'avez pas fini de la porte.
Non mais bon, on sent bien ici, on n'est pas énergie, on peut quand même parler un peu intelligemment. Non.
Alors dans Babel, chaque chanson qui ouvre les deux CD évoque la situation de la France rurale et on écoute celle qui ouvre le deuxième album, Le jour se lève sur Chamas blanc. Extrait.
Cuire la rhubarbe pour le petit qui a toussé toute la nuit, tout est humeur et pissenlit dans le pays d'ici. Le facteur est pas encore passé, je veux voir les avis de décès, c'est à 9h pour le ferment. Faudra tous y aller, nom de nom. Jean-Pierre va mal, mon pauvre monde. Un gars comme ça, si seul au monde, m'en parle plus. Faut travailler dans le pays où je suis né.
Un extrait de Le jour se lève sur Chamas blanc. La chanson évoque une France rurale qui se sent de plus en plus déclassée. Et dans la chanson qui ouvre le premier CD, il est question de la désertification de plus en plus massive des montagnes. Je sais que votre compagne est conseillère municipale. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à vous engager localement, politiquement, dans votre région, dans le Murat?
Non,
ou simplement
ça m'a
cet engagement aussi dans les chansons.
Non, chanson, ça suffit. Enfin, je ne sais même pas si ça suffit d'ailleurs, mais enfin, chacun sa nature. J'ai pas une nature qui va vers l'engagement. Quoi. Je suis un solitaire, un franc-tireur.
Benoît.
En 2011, lors de la sortie du Grand Lièvre, vous chantiez déjà la fin des villages et vous expliquiez que vous faisiez un parallèle entre la fin d'un monde paysan et la fin d'une chanson qui enchante le monde. Vous disiez avoir l'impression que la chanson avait perdu la main. Comment vous expliquez-vous ce désenchantement? Il est personnel ou il est plus large selon vous?
Oh, c'est beaucoup plus large que ça. Là, ça serait très sérieux. Non, mais je pense que quand on est dans un pays qui... Faut vivre dans un pays puissant économiquement pour écrire des bonnes chansons, je crois.
Ah, véritablement, pensez ça.
Je pense qu'il y a une production artistique qui est l'émanation d'une certaine puissance. Et je trouve que c'est très difficile d'enchanter quand les choses autour de soi sont, quand le désenchantement est présent, c'est extrêmement difficile de chanter le désenchantement, ouais, et d'enchanter. Mais souvent, on en parle avec Laetitia, pour les images, c'est pareil. C'est extrêmement difficile. On arrive dans une période qui, à la fois, est passionnante à observer, mais pour essayer de mettre le feu là-dedans, non, c'est beaucoup trop humide, il n'y a plus de braise, on a un mal fou à embraser tout ça.
Laetitia Masson, au niveau des images, vous êtes d'accord avec
oui, manifestement ? Complètement. Je pense que, enfin, je pense puissance économique et puissance symbolique aussi. Il faut se sentir puissant et pas tout le temps impuissant. Donc c'est vrai que nous, qui nous sentons malgré tout puissants, on a du mal effectivement.
Voilà,
on craque l'allumette.
Exactement.
On a encore les allumettes, mais c'est vrai qu'il n'y a plus le, il y a plus les brindilles en face, quoi. Mais ça n'empêche pas de. Par contre, ce qu'on se dit, c'est que ça n'empêche pas d'essayer et que rien ne nous arrêtera. Ça,
bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est très difficile. On a le temps, là, ici.
Oui, oui.
Hier, j'étais en interview avec une dame prof de lettres qui s'appelle Mme Walter. Et donc, il connaît bien la culture grecque, culture latine, tout ça. Et moi, je lui disais, mais plus tard qu'à Rome, qu'est-ce que ça lui fait ? Comment ça se fait que le latin perdure dans le français et que le grec a été laminé ? Et donc, elle m'expliquait tout ça avec les... Et effectivement, d'un seul coup, après les deux attaques successives sur la Grèce de Rome, la culture grecque disparaît. C'est la culture romaine qui prend le dessus. Donc, il y a malgré tout un fait. Elle était assez d'accord avec ça, cette dame, que j'ai raccompagnée chez elle. Du coup, tellement
c'est pas
intéressant. Et donc, il y a un rapport entre puissance économique et créativité. Et ce rapport-là est très difficile à établir. Et après, c'est difficile pour nous-mêmes, en faisant des films ou en écrivant des petites chansons, des choses comme ça, c'est très difficile d'expliquer ça parce qu'on a un sentiment d'impuissance. Mais l'impuissance ne fait pas partie de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous sommes dans une société en crise que nous avons l'impuissance de cette crise-là. Mais malgré tout, la couleur de l'impuissance vient se greffer, malgré nous, sur tout ce qu'on peut faire, parce qu'on est des produits d'une culture qui décline, et d'une langue qui décline, et d'une présence qui décline, et de caractères qui déclinent.
J'étais sûr que vous arriviez sur le domaine de la langue, en parlant justement de ce latin qui arrivait au français et que le grec avait été écarté. Justement, dans la chanson, est-ce que vous pourriez dire que votre rôle aujourd'hui est de maintenir coûte que coûte le français, alors même que vous travaillez avec un groupe qui a travaillé, qui chante en anglais ? De la néo-orchestra.
Oui, mais
et vous en parlez avec eux ?
Ou d'enregistrer avec des Anglais ou des Américains.
Oui, c'est ce
par
que vous
exemple,
avez
d'enregistrer
fait.
À New York, à Nashville, justement, ouais. Avec Laetitia. Ça, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire de savoir comment. Et donc, ils acceptaient que je chante en français, vous vous souvenez ?
Ouais, ouais.
Par le Mexique, c'est-à-dire ils trouvaient que ça comment chaloupait. Ils trouvaient que le français chaloupait façon mexicaine et que d'un seul coup, ça les aidait à trouver le bon tempo. Le bon tempo sur ce que je pouvais donner. C'est-à-dire que d'un seul coup, c'était encore un peu la présence des Latins ou des Romains, mais qui passaient d'un seul coup par l'Espagne et par le Mexique. Et pour eux, je faisais une musique qui remontait et ils essayaient à chaque fois de chalouper tout ce que je pouvais faire à la mexicaine, ce qui était une grande surprise pour moi.
Mais justement, qu'est-ce que vous étiez allé chercher du côté des États-Unis pour deux albums enregistrés avec des groupes, Calexico en 99 et puis ensuite le cours ordinaire des choses, je crois que c'était en 2000, en 99 Calexico et l'autre c'était en 2009. Qu'est-ce que vous alliez chercher aux États-Unis à ce moment-là ?
Justement, cette une sensibilité, une façon de faire différente qui peut venir se poser sur ce que je fais. Parce qu'en tant qu'utilisant, faisant de la chanson française et enregistrant en France, c'est beaucoup plus intéressant, même d'ailleurs enregistrer en Belgique ou en Suisse, ce que j'ai fait aussi. Mais enregistrer des chansons françaises en France, c'est la double sanction.
C'est ce que vous êtes en train de faire, pourtant, avec cet album-là.
Mais il faut bien, je vais bien varier à chaque fois. Ou alors sinon, je vais m'installer à Los Angeles et je fais des disques américains, ce qui n'aurait aucun intérêt. Donc je fais des fois des petites incursions, comme ça, ailleurs. Et c'est dommage parce qu'on avait le projet, vous vous souvenez, d'aller à Bombay, par exemple, vous l'enregistrez à Bombay, ou d'aller enregistrer en Afrique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça m'intéresse beaucoup de travailler avec des musiciens qui comprennent absolument pas ce que je peux dire, Et vous vous souvenez, aux États-Unis, à Nashville, c'était extra. On allait sur Internet chercher des photos d'Orcival, des basiliques du 12e, 13e siècle. Ils disaient, mais c'est quoi ça? Mais c'est où j'habite? Et du coup, ça leur donnait les idées pour travailler sur mes petites chansons.
Sur la puissance ou l'impuissance, ce qui était impressionnant, c'est que dès que Jean-Louis a commencé, il chantait pour leur expliquer donc, les chansons guitare-voix. Les mecs étaient quand même des très bons, grands musiciens. Ils étaient comme ça, complètement fascinés. Donc là, il n'y avait plus l'Amérique comme rêve absolu et la France qui se sentait... Il y avait une espèce d'égalité dans le groove, je ne sais pas comment on dit, qui m'a impressionnée. Je me suis dit, ce que moi, je ressens quand je l'écoute, c'est que ça transperce, c'est que les mecs, ils étaient vraiment impressionnés. Et ça, c'était... Ils avaient tous joué avec Neil Young, avec plein de gens, et ils étaient comme ça. Il n'y avait plus du tout d'histoire de frontières. Ça, c'était très beau.
Ouais, et ça, c'est très enrichissant. C'était très enrichissant pour moi. Du coup, ça me donnait une sorte d'énergie.
C'est ça, voilà, une espèce de ping-pong.
Ça me donnait de l'énergie, et je retrouvais une sorte d'énergie chez le peuple conquérant. Et je refaisais, c'était d'un seul coup le petit peuple conquis qui se servait. Oui, c'était très. Je récupérais leur énergie. Oui.
Et à Bombay, qu'est-ce que vous allez chercher? Vous aviez déjà des contacts?
Aller chercher de ça, tout
oui,
ça.
Mais là, c'est une autre histoire.
Non, j'avais beaucoup avancé là-dessus, bien sûr.
Vous aviez contacté qui, des musiciens?
Mastalia Bar, ils étaient 2-3 mois là-bas. Laetitia serait venue et on partait à la recherche, prendre un appartement et puis louer un studio, aller écouter des musiciens, puis dire vous voulez pas venir. Et puis comme un peu, j'avais fait à New York aussi, d'aller dans les clubs, dire j'adore ce que vous faites, demain Georges, vous voulez pas venir faire pouet-pouet sur mes chansons. Et puis voilà, et donc ça, j'aurais beaucoup aimé faire ça à Bombay. Et aussi le projet, par exemple, d'aller à Shanghai ou à Pékin.
Oui.
C'est ça. Mais sauf si on arrive là-dedans, dans le business français, c'est là qu'on est d'une culture dominée. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que tu vas aller foutre là-bas? T'as pas une thune. Et à la fin, tu fais ton disque avec Clermont-Ferrand. Et là, on voit bien comment on est dans une culture dominée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la puissance financière. Il n'y a pas une thune pour faire les disques.
Enfin, qui disent, mais à mon avis, il y en a, mais...
Benoît.
Vos débuts dans la musique, je crois que c'était à l'âge de 7 ans, à l'harmonie municipale, vous faisiez du saxophone. Au début, où vous en êtes par rapport au saxophone? Parce que là, l'album, il est cuivré, mais plutôt version trompette. Votre rapport à cet
instrument?
Oui, non,
j'ai pas joué du... Non, je continue à en jouer un peu régulièrement, mais je... Déjà, je chante, je joue de pas mal de choses, et donc j'ai toujours trouvé ça du plus mauvais effet de... Alors, je suis écrivain, je suis peintre, je joue du saxophone, je joue de la trompette, je joue de la flûte traversière.
Mais le fait de...
Je fais de la cuisine, je danse.
J'ai eu un premier prix de comédie et j'ai eu machin.
Mais le fait de débuter par le saxophone, est-ce que ça a influencé une façon de penser la musique?
De chanter, je pense. Parce que j'aimais beaucoup, c'était saxophone ténor. Et donc, j'aimais beaucoup Coltrane ou Coleman Hawkins ou des gens comme ça qui maîtrisent bien le souffle, surtout Coleman Hawkins. Et j'ai toujours beaucoup aimé des gens qui, Sinatra, on pourrait dire, c'est un saxophone. Et j'ai toujours beaucoup aimé les chanteurs saxophones.
Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous quand vous étiez enfant? Quelles sont les musiques que vous associez?
Non, je suis, c'est comme à Saint-Flour, hein, c'est-à-dire on choisissait pas ce qu'on pouvait écouter. C'était ma mère, un jour, a acheté une petite radio, et là je pouvais écouter des choses. Et donc je pense pour mes 11-12 ans, j'ai entendu une fois Bob Dylan, et je me souviens de tout encore. Et j'ai entendu une fois Ray Charles aussi, je me souviens de tout. C'est un peu très proustien, c'est-à-dire je me souviens de tout. J'ai le bruit, il pleuvait, Ray Charles, j'entends le bruit des gouttes d'eau à l'extérieur quand j'ai entendu Ray Charles pour la première fois. Donc ça m'a fait une marque. J'ai du mal à m'expliquer d'ailleurs, où d'un seul coup, c'était comme si j'entrevoyais un pays où il fallait que j'aille vivre.
Voilà. Alors, comme tous nos invités depuis le début de l'année, on vous a demandé un son, et voici ce que vous avez apporté, Jean-Louis Murat. Je pense qu'on a reconnu le son, précisément.
Ouais. Là, je pense qu'elles ont à manger bientôt. Je pense que ça, c'est l'hiver, dans l'étable, avant qu'on leur amène le foin du soir, ça, je pense.
Pourquoi avoir
choisi
ce son?
C'est pas du tout de l'eau qui leur manque, là, c'est plutôt du foin. Parce que les vaches sont mes amies et que je communique très bien avec les vaches, que je leur parle, que je les comprends, qu'elles me comprennent et que j'aime beaucoup communiquer avec les animaux.
Benoît.
Dans les crédits de l'album, vous signez les paroles et les musiques de votre vrai nom, Jean-Louis Burgot, et la réalisation de l'album, Jean-Louis Murat. Quelle est la raison à cette distinction pour la réalisation et comme auteur-compositeur?
Vous venez d'en donner la preuve éclatante, c'est-à-dire que vous avez esquinté mon nom voilà. D'état civil.
Burgot, alors.
Donc j'ai bouffé de ça à l'école, à la Bourboule, à chaque rentrée des classes. Je dis non, monsieur, je ne m'appelle pas... Alors que c'est un vrai mot auvergnat, Berzao, c'est-à-dire que je m'appelle Berjo. C'est les bergers de la collectivité, ouais. C'est les Berzo, donc moi je m'appelle Berjo. Et on m'appelle, comme vous avez fait, Burgot, Bargo, Bergouniaf, Bergouniouf. Donc
il n'est pas allé jusque-là.
Non, mais ça aurait pu. Et donc j'ai pris un nom simple. Un nom simple. Et Murat, qui était... Quand on me l'a demandé au téléphone, on m'a dit « Comment tu veux t'appeler? C'est quoi ton nom, déjà ?» Et là, j'ai dit... J'étais sur la route de Muralcaire. Je sais, il y a le panneau en face de moi. J'ai dit « Murat !» Et il m'a dit « Ouais, super !» Et c'est parti comme ça.
À propos de nom de scène, en 81, lors de la sortie de votre premier 45 tours, vous aviez proposé à votre maison de disques le nom d'un personnage légendaire. Amerigo Marchez, c'est qui?
Amerigo Marchez.
Ouais, je sais pas qui c'est.
C'était le roi des pillards qui a mis à feu et à sang l'Auvergne au XIe, XIIe siècle et qui était de la Corrèze. Et voilà, moi j'ai été élevé autour des ruines de son château où il y avait cette légende que le trésor était enfoui là-dessous. Et comme j'avais une grand-mère très sorcière qui croyait aux forces surnaturelles, la grande récompense, quand on avait fini de rentrer les foins et surtout de rentrer le regain, c'était « on va aller ramasser des mûres et des framboises dans les ruines du château d'Amerigo Marchez et on va essayer de retrouver le trésor ». Et c'était un peu par respect pour ma grand-mère que j'ai dit « je vais m'appeler Amerigo Marchez ». Mais quand j'ai dit aux crétins parisiens, vous en foutez, il est un peu pour lui. Quand j'ai dit aux crétins parisiens, je vais m'appeler Amerigo Marchez, c'est ce que j'ai dit. Là, je me disais hey, « pourquoi pas ?» C'était Georges Marchais à l'époque, il trouvait que ça ressemblait à Georges Marchais. Donc, je n'ai pas pu m'appeler Amerigo Marchez non plus.
Le rendez-vous, la chronique.
On va vous retrouver dans quelques instants Jean-Louis Murat et Laetitia Masson, mais tout de suite c'est la chronique Place de la Toile de Xavier Delaporte, le rédacteur en chef de Rue 89, puisque c'est une chronique en partenariat.
C'est bien.
Allez-y.
Progresser.
Oui, c'est vrai, je dis tout. Dans le désordre, mais je dis tout.
Ouais, ça va, ça allait. J'avoue trouver assez intéressante la discussion qui a lieu autour du jeu vidéo Assassin's Creed Unity. Je vous rappelle rapidement le contexte, Laurent, je pense que c'est nécessaire.
Je crois même que vous me l'apprenez.
Ouais, je vous l'apprends. Le dernier volet d'Assassin's Creed, jeu vidéo à grand succès développé par Ubisoft, qui est une boîte française, un des leaders en la matière, se déroule pendant la Révolution française. Et des voix se sont élevées, d'abord celle d'Alexis Corbière, du parti de gauche, puis celle un peu plus puissante de Jean-Luc Mélenchon, pour critiquer le contenu politique du jeu. L'un et l'autre ont trouvé que le jeu dénigrait la Révolution et ses idéaux en faisant du peuple une meute violente, de Robespierre un personnage sanguinaire et des aristocrates et du roi des héros positifs. Critiques qui ont été accompagnées par une deuxième salve, celle des historiens à qui on a montré ce jeu, d'ailleurs à qui plus exactement on a montré la bande-annonce de 5 minutes, et qui ont relevé les anachronismes, les parisiens qui chantent la Marseillaise alors qu'elle n'est pas encore écrite, le drapeau tricolore qui flotte partout alors qu'il n'a pas encore été adopté par les révolutionnaires, etc. Enfin sont venues les justifications des concepteurs du jeu et de certains gamers eux-mêmes qui ont expliqué qu'un jeu vidéo n'était pas une œuvre d'historien ni un documentaire, qu'il ne devait pas être jugé à cette aune, qu'un jeu serait plutôt comme une fiction à laquelle on demande autre chose que l'exactitude historique, mais une fiction complexifiée par le fait qu'elle se joue et que sa qualité s'évalue selon d'autres critères encore que sont donc la jouabilité, mais la puissance immersive, etc. Tout cela est tout à fait passionnant. C'est un des rares cas où l'on parle de jeu vidéo pour autre chose que pour son caractère abrutissant, pour la violence dont il serait le déclencheur, pour sa puissance économique qu'on a l'air de redécouvrir chaque matin, ou plus récemment pour les comportements sexistes que sa pratique peut engendrer. Alors cette fois-ci, on parle du jeu vidéo pour des raisons politiques et esthétiques. Et d'ailleurs, il faut noter et mettre au crédit de Jean-Luc Mélenchon que quand il a donné son avis sur le jeu, sur Assassin's Creed Unity, il a pris bien soin d'expliquer auparavant qu'il respectait le jeu vidéo en tant qu'expression artistique, en tant qu'art longtemps méprisé, comme le fut la BD, auquel il fallait vraiment s'intéresser. Et parce que c'est Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il s'agit de la Révolution française, voici qu'on parle de jeu vidéo comme on parlerait d'un film. Un peu d'ailleurs, comme on avait parlé du film d'Éric Rohmer sur la Révolution française, L'Anglaise et le Duc. C'était en 2001. D'ailleurs, c'est le premier film dans lequel Rohmer avait eu recours aux technologies numériques. Bon, c'est une sorte de coïncidence. On peut trouver que c'est un peu bêta, que la première polémique esthétique grand public concernant le genre vidéo pose une question aussi bas de gamme que un jeu doit-il être une juste représentation du contexte historique dans lequel il se déroule. Parce que si cette question se justifie du point de vue pédagogique, tout le monde sait que, pour beaucoup, Assassin's Creed sera à peu près le seul contact non scolaire un peu prolongé avec la Révolution française. Et bien cette question, elle est un peu absurde pour tout un ensemble de raisons. Les exigences du jeu sont évidemment incompatibles avec une juste représentation de Paris, par exemple. Il faut densifier l'attention, spatialement, pour qu'il soit drôle de s'y promener et d'y jouer. Il faut simplifier les divergences politiques, pour qu'on n'ait pas besoin de 3 mois de lecture de bouquins pour oser agir. Il faut trouver une langue qui soit pas celle des habitants de Paris au XVIIIe siècle, pour se protéger du risque qu'on comprenne rien à ce qu'ils se disent. Le personnage lui-même, celui qui est, donc, qui est pris en main par le joueur, est exceptionnel, doit être exceptionnel. Il bondit, il grimpe au mur, il atteint le clocher de Notre-Dame en 10 secondes. L'expérience qu'il offre de la ville, de ses distances, de ses dangers, de ses incertitudes, n'a évidemment rien à voir avec une expérience historique et heureuse. Si je puis dire. Pour autant, la question de savoir si cette expérience du joueur, celle qu'il vit avec son personnage, avec le scénario, avec ses manettes, est une expérience contre-révolutionnaire, ça, c'est une belle question. Mais qui va au-delà du rôle conféré au personnage de Robespierre et aux quelques anachronismes relevés à droite à gauche. Ah, et puis, si on s'intéresse aux anachronismes, il faudrait préciser qu'il y en a un remarquable. Dans le jeu, Notre-Dame de Paris est privée de son grand orgue. Pas qui est supérieur à celui de Saint-Flour, paraît-il. Pas parce que les concepteurs...
À Saint-Flour, il y en a plusieurs.
Des orgues qui deviennent féminines. Pas parce que les concepteurs sont des nazes qui ne connaissent rien à l'histoire et à la vénérable cathédrale, mais parce qu'ils n'ont pas eu le droit de le reproduire, l'orgue de Notre-Dame de Paris. Eh ben ouais, l'orgue de Notre-Dame de Paris a été rénové en 92. Il est donc sorti du domaine public pour retomber sous l'empreinte du copyright, donc pas de reproduction possible sans payer des droits. Voici donc Notre-Dame de Paris du jeu amputé d'un de ses atouts majeurs. Voici un anachronisme criant, mais celui-ci, bizarrement, personne ou presque n'en parle.
C'est même pas un anachronisme, c'est du révisionnisme historique.
Je suis d'accord avec vous, Laurent. Qu'est-ce que vous êtes militant, c'est beau.
Plateau Mise en abîme avec vous, Laetitia Masson, cinéaste, un parcours qui commence au milieu des années 90, En avoir, entre parenthèses, ou pas, en 95, Love Me avec Johnny Hallyday, La Repentie avec Isabelle Adjani, Pourquoi, entre parenthèses, pas le Brésil, et aujourd'hui vous signez GHB, entre parenthèses, Être ou ne pas être. Alors on va en parler, mais vous sentez la question arriver. Une question sur la façon que vous avez de construire vos titres, entre parenthèses, dès le départ, dès le premier. Qu'est-ce que cela dit de votre cinéma, en fait? Est-ce que c'est une pure coquetterie typographique ou ça veut vraiment dire quelque chose pour vous?
Non, ça doit avoir un rapport avec l'idée que j'ai que les choses sont complexes, donc elles peuvent être une chose ou l'inverse. Et c'est moi j'étudie l'endroit entre les deux. Donc pour moi la vie n'est pas simple. Et donc voilà, ça doit être ça que j'exprime par les parenthèses.
Dans GHB, Être ou ne pas être, vous filmez donc 4 femmes. L'une est réalisatrice, elle est jouée par Élodie Boucher, qui cherche plutôt à capturer l'amour par le cinéma en s'inventant 3 filles, 3 personnages, toutes les 3 qui sont interprétées par Marina Hans. Alors il y a une femme qui apprend qu'elle n'aura pas d'enfant et qui s'accroche à un mystérieux vagabond qu'elle veut, on va dire,
dévorer.
Une femme qui s'échappe d'un mariage raté pour réinventer sa vie à New York, et puis une femme qui fuit son amour bourgeois dans l'idée de rejoindre un ancien amour à Shanghai. Ah, il y avait peut-être un lien avec tout à l'heure. D'accord, je vois le genre. Bref, le film est construit sur une série de mises en abîme, de trompe-l'œil, liées par une voix off et par une bande originale ultra sophistiquée, bande-annonce.
Mon rêve, c'est de faire un film pour capturer l'amour. Pas un truc à l'eau de rose. Ce serait l'histoire d'une fille qui rêve. Je suis rentrée. Il était là, c'est tout.
Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez?
Noce de bois, ça s'appelle. Cinq ans de mariage.
I'll jump in. It's 2 hours. And it's $1,000 each.
$1,000? What sort of job is this?
Touch it.
Si je pars, je perds tout.
En amour, vous êtes plutôt maître ou esclave?
Qu'est-ce qui se passe, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux le garder ici?
Si vous retrouvez votre famille, vous penserez à moi de temps en temps.
You're a crazy type.
What is GHB? You really know nothing, do you?
Est-ce qu'on peut passer une vie à chercher l'amour sans le trouver? Juste des illusions.
Laetitia Masson, peut-être un commentaire à propos du titre GHB, c'est la drogue du violeur. Et dans le film, le personnage interprété par Clémence Poésie en donne un flacon à Marina Hans, ce qui en fait un produit qui circule entre les femmes. Qu'est-ce que vous cherchez à déplacer, justement?
C'est un peu un MacGuffin, c'est-à-dire que c'est la drogue de l'amour. On appelle la drogue de l'amour. Et comme pour moi, l'amour est une drogue.
On appelle plutôt la drogue du violeur.
Oui, du violeur, mais.
C'est pas la même chose.
Ça me fascine un peu que des gens soient obligés d'endormir d'autres personnes pour leur faire l'amour et que ça les dérange pas qu'en face, il n'y a aucune réaction. Donc voilà, comme tout le film interroge l'amour par plein d'endroits différents, le rapport de force, la trahison, enfin plein de choses, ça me paraissait un des angles, le fait de devoir droguer quelqu'un pour faire l'amour, quoi.
Lucille, comment
vous dites que ce film est le contre-champ de votre premier film, celui de 95 qui s'appelait « En avoir ou pas ». C'était l'histoire d'une jeune ouvrière au chômage qui quitte sa région d'origine et d'un autre ouvrier solitaire. En quoi il en serait le contre-champ ?
Parce que là, c'est un questionnement existentiel et non plus un questionnement matériel, même si l'existence est évidemment liée à l'économie, à la politique, à tout ça. Mais c'est des filles un peu plus vieilles, donc qui se posent des questions un peu plus... qui ont résolu une partie des questions que se posait mon héroïne d'en avoir ou pas. Et donc voilà, je dis que c'est le contre-champ parce que c'est... C'est plus avoir un travail ou pas, c'est... De toute façon, on sait qu'on n'en aura pas. À un moment, un des personnages erre dans New York avec une pancarte. Et d'un côté, c'est marqué « je cherche un travail » et d'autre côté, « je cherche l'amour ». Voilà. Donc, ça devient... c'est plus trouver un travail, c'est trouver un sens à sa vie.
Qu'est-ce qui vous marque plus particulièrement dans le cinéma de Laetitia Masson, Jean-Louis Murat? Qu'est-ce que vous y trouvez?
Ce qui m'intéresse, c'est elle en train de faire du cinéma. C'est ça, on se connaît tellement que c'est difficile de... Comme je pense de faire pour vous aussi, c'est moi en train de chanter quand même. C'est ce qui est plus intéressant. Donc on parle beaucoup de tout ça. C'est l'énergie, je pense que c'est ça. On a des énergies complémentaires et des énergies qui arrivent à s'auto-alimenter. Et c'est très difficile de faire des films, c'est très difficile de raconter une histoire, c'est très difficile d'être une femme maintenant, une femme qui veut raconter des histoires, malgré tout ce monde de mecs un peu. Et donc ça fait un pendant, je pense qu'on s'entend comme cochons, et on s'entend comme frères et sœurs, et on reste, on essaie d'alimenter cette énergie-là, voilà, entre nous. Après les autres jugements, je dirais, on bascule dans le privé.
Xavier
Delaporte, c'est une question vraiment toute bête, mais vous voyez juste parce qu'on est dans un studio, vous voyez...
Ah non, mais je crois qu'il se voit très régulièrement. Je connais très bien.
Vous voyez.
Ah,
ouais. Je vous vois très bien aussi.
Et pourquoi vous voyez...
Moi, je vous vois toujours les filles, je trouve ça beaucoup plus sexy. Oui, quand on passe aux choses sérieuses, après je tutoie. Donc je peux tutoyer pendant 5 minutes et revenir au vouvoiement. Je crois beaucoup à la tension entre le vous et le tu. À Saint-Flour, ils font ça, par exemple.
Je vous le confirme. Si vous voyez ma mère,
très bien.
C'est incroyable. En fait, c'est le centre du monde, une norme sociale.
Le film commence par une longue ouverture musicale d'une dizaine de minutes. C'est une chanson interprétée par Charlotte Gainsbourg. Et on voit Marina Hans, vêtue comme un mage noir, évoluer dans des lumières un peu psychédéliques. Le tout filmé en 3D. Comment vous en êtes arrivé à penser à la 3D pour ce film?
Alors, c'est pas de la 3D. Non, c'est du numérique. C'est du virtuel. C'est un monde virtuel, mais qui donne cette dimension, mais il n'y a pas besoin de lunettes. Et oui, c'est carrément une autre dimension. Mais non, dans ce film, je voulais essayer aussi de capturer une sorte d'air du temps et de musique du temps électronique. Enfin, c'est une espèce de désagrégation des voix, de l'âme. Enfin, voilà. Donc c'est.
Et au niveau de l'image numérique, alors, comment vous avez pu vous initier à ce travail-là?
En fait,
c'est très particulier la façon que vous avez de travailler le numérique.
Pour résumer, c'est un film qui a été fait avec très très peu d'argent. C'est mon Clermont-Ferrand, moi. Donc, ce qui m'a amusée, c'est de me dire, je suis très pauvre, donc il faut que je me paye justement des trucs de luxe. Donc, avec rien, montrer qu'avec très très peu d'outils très contemporains, je pouvais faire des choses. Donc là, c'est fait avec rien du tout, et j'ai pu créer un univers. Ben, c'est juste en y pensant, en regardant des choses et en dirigeant un garçon qui était derrière son ordinateur. Ça m'intéressait de rentrer. C'est comme l'image de l'intérieur de la tête d'une fille qui traverse donc des corps d'hommes nus et dont les couleurs sont séparées. On voit des cerveaux qui palpitent. On voit, voilà, c'était pour montrer, pareil, que ces trucs-là qui sont normalement réservés aux Américains, je pouvais les faire aussi.
Lucille.
Ce prologue, c'est aussi une manière d'affirmer le caractère musical de votre film, qui est d'ailleurs produit par un compositeur et producteur dont je ne vais pas savoir bien prononcer le nom, donc je laisse avoir le temps de le faire.
Qui était le producteur des deux albums qui ont remis Madonna en scène, c'était American Life et Music à l'époque.
Voilà, je me suis fait traiter d'un culte à ce propos.
C'est pas la première fois.
Oui, qui n'accompagne pas le film, qui est vraiment un acteur du film. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce travail avec lui ?
En fait, ce que je racontais à Jean-Louis hors micro, c'est que l'association avec Mirouet, c'était plus une association de production. Dans l'idéal, dans mon rêve de départ, c'était l'idée de ce qui l'intéressait, lui, c'était de réinventer une façon de faire du cinéma, parce qu'il voulait rentrer dans le cinéma. Donc j'ai dit, pour l'invention, t'es bien tombé.
Bon.
Donc, il voulait inventer une façon de produire, une façon de distribuer, une façon de... Et moi, je devais inventer une façon de faire donc un film en payant les gens, mais avec vraiment le minimum. Donc, j'ai fait ma partie du travail. Après, l'autre partie, il n'y a pas forcément... La distribution, la production n'a pas été vraiment réinventée, mais moi, il me semble que j'ai essayé de prouver qu'avec les outils... numérique moderne, on pouvait s'affranchir de beaucoup, beaucoup de contraintes techniques, imaginaires. Aujourd'hui, on a des caméras numériques, mais on fait des films comme on les faisait avant la nouvelle vague. Donc moi, ça me sidère et je voulais prouver, ne serait-ce qu'à moi-même, parce que c'est pas évident quand même, c'est pas si facile, mais et montrer ça à des jeunes gens comme ça, même passer le DVD sous le manteau, c'est ça qui m'intéresse, de dire libérez-vous, avec trois idées et deux plugs, on peut faire des choses.
Pas ceux qui sont sur la place Vendôme, d'ailleurs, ils ont été dégonflés. Oui. Juste une petite question par rapport à la musique, parce que la musique, ici, est composée par Mirwais, elle est absolument omniprésente dans le film. Et pour autant, quand vous écrivez le film, au niveau du scénario, c'est la musique de Batman que vous avez en tête. Qu'est-ce que cela a imprimé dans l'écriture de ce film, Laetitia Masson ?
Mon idée, c'était vraiment de... Moi, je fais des films... qui cherche donc qui interroge les liens entre les gens, donc des choses assez immatérielles, assez sensorielles, assez émotionnelles. Et lui, c'est quelqu'un d'extrêmement conceptuel, donc ça m'intéressait de confronter les deux et de voir ce que ça produisait. Pareil, moi j'ai allumé un feu, et voilà, après de confronter deux choses vraiment opposées et qui me semblaient, une fois réunies, parler de ça, d'un espèce de truc au fond irréconciliable, et que voilà.
Lucille.
Comme tous les jours, Laetitia Masson, on demande à nos invités de venir avec un son qu'ils ont choisi. Et vous avez choisi ça.
Nu dans la crevasse, prisonnier de glace, je n'ai plus le temps. Le temps me dépasse, faites de la place. Je suis un éléphant.
Identification de ce son, Laetitia Masson, et pourquoi vous l'avez choisi ? Pourquoi cette chanson, peut-être en particulier ?
Donc c'est la version live d'une chanson de Jean-Louis qui s'appelle « Nu dans la crevasse », qui résume pour moi beaucoup de choses, parce qu'il y parle de la montagne, mais avec un son un peu... un peu, je sais pas, électrique. Enfin, donc ça oppose deux choses qui, moi, me touchent beaucoup. C'est pour ça que j'aime Jean-Louis, c'est que lui, il parle aux vaches et moi, je parle plutôt aux voitures. Et du coup, voilà, j'aime bien. Pareil, c'est le rapport qui m'intéresse, c'est le trajet que je dois faire vers lui que je trouve. C'est cette aventure-là que j'aime. Et puis après, c'est vraiment dans les paroles aussi, il dit. Il traite la fille de pétasse et lui demande de venir le prolonger. Et quand je l'écoute, je me dis que c'est moi qui parle. Donc c'était aussi pour illustrer ça que quand j'écoute Jean-Louis qui parle comme un homme, je me mets à sa place à lui et je trouve ça normal de... Je me sens à la fois lui et à la fois la pétasse. C'est un drôle de truc. Et voilà, comme on allait parler ensemble, je me suis dit que ça expliquerait aussi pourquoi on était ensemble. Et
c'est vrai que c'est la base de notre communication, si je peux dire. Si...
Jean-Louis Murat.
Moi, j'aime beaucoup. On lance toujours des sujets entre nous, de savoir ce que moi, en tant que garçon, je peux en faire et elle, ce qu'elle en fait en tant que fille. Et après, des fois, on s'amuse. Moi, j'essaie d'imaginer ce que ça pourrait faire en tant que fille. Et on peut aller, toutes les conversations sont totalement ouvertes, on n'a aucun tabou. Et donc c'est extrêmement intéressant, on fait des échanges de sensations de filles et garçons, de garçons à filles.
Et les derniers sujets, c'était quoi ?
Sur des impressions très très simples. Sur des... non, mais comment ?
Le dernier sujet, c'était quoi par exemple ?
On se voit, regarde.
C'est du domaine privé ?
Non,
pas véritablement.
Non.
Là, on passe au tutoiement, donc là.
Ah, là, on passe au tutoiement, d'accord.
On va passer la soirée ensemble.
Ah, bah ouais.
On verra après, là, ça vous regarde plus.
Il n'y avait plus du tout d'histoire de frontières, et ça c'était très beau.
Clermont-Ferrand, c'est Saint-Pétersbourg, enfin c'est très très loin.
Merci à nos invités, Laetitia Masson, c'était pour le film GHB, Être ou ne pas être, Jean-Louis Murat pour le double album Babel qui est paru sous le label Piass, et je signale que vous serez samedi sur scène à Marciac, et toutes les dates de la tournée sont disponibles sur le site de l'émission. Ça c'était pour aujourd'hui, mais demain.
Et tout d'un coup, la revoilà, les cheveux lés sur son balai. Quelle finale !
Demain, une émission portrait photo Afrique et conte avec Eliane Delatour et Muriel Bloch. La désannonce, Hippolyte.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Benoît Lagan, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, Journal de la Culture Zoé Sfès, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Léa Le Foll et Jacques Azubert, à la réalisation Thomas Beau.